Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Il y a 2 ans, j'allais à la rencontre de Charlotte, cette jeune maman strasbourgeoise qui venait tout juste de perdre son mari, son amour, le papa de sa fille, Jean, à la suite d'un cancer foudroyant. Cette capsule estivale « Que sont-ils et que sont-elles devenus ?», je l'ai conçue en pensant à Charlotte. Elle est son point de départ car je voulais absolument vous faire entendre la suite de son histoire, que je suivais de loin grâce à la magie des réseaux sociaux. Lorsque nous avons enregistré l'épisode 52 en mars 2021, Charlotte n'était qu'au tout début de son deuil. En 2 années, il y a eu des très très bas, certes, et Charlotte les raconte très bien dans cet épisode. Mais la vie a fini par sourire de nouveau après la traversée du désert. Et c'est précisément pour ce message plein d'espoir que je tenais à enregistrer cet épisode. Parce qu'elle me le disait déjà il y a 2 ans, c'est ce que Jean aurait voulu. Et c'est ce que Charlotte mérite. Tu pensais être seule à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Charlotte.
Bonjour Élise.
Bienvenue, re-bienvenue sur Prenons un café. Je suis vraiment super contente de te revoir, de te revoir plus de 2 ans après, dans d'autres circonstances. Vraiment, voir là ton très grand sourire me fait rempli de joie. Ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, qui n'auraient pas écouté ton histoire sur le premier épisode, tu vois, j'ai oublié de noter, je crois que c'est le 32.
Le 52, me semble-t-il.
C'est 52.
Ouais.
Ils peuvent aller l'écouter même avant. Mm. Si vous ne l'avez pas écouté, faites pause, allez l'écouter et revenez après.
C'est peut-être pas mal de faire dans l'ordre,
je pense. Ça sera plus simple. Donc pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Alors, je m'appelle Charlotte, j'ai bientôt 37 ans et effectivement, on a enregistré un premier épisode ensemble il y a donc un peu plus de 2 ans, lorsque j'ai perdu donc mon mari, Jean, le papa de ma fille, et donc on a enregistré 6 mois après son décès, hein, c'était très rapide, voilà, et ma fille avait 22 mois à l'époque, au moment de son décès, voilà, et donc aujourd'hui, elle a 4 ans et demi.
On parle plus en mois maintenant.
Ça y est, on a arrêté, hein. Bien que le demi, ils y tiennent. Hein.
Ah, alors ça, c'est important. Hein. Le jour où il passe au demi, il faut dire demi.
Ah oui. C'est...
Déconne pas. Et donc, ouais, on avait enregistré donc, il y a un peu plus de 2 ans. Tu m'avais contactée en me parlant de ton histoire qui m'avait forcément beaucoup touchée. Et j'avais fait la route jusque Strasbourg parce que tu es alsacienne.
Toujours en Alsace.
C'est vrai, toujours
pas
là-bas.
Pas de changement à ce niveau-là.
Et là, on va parler de l'après. Parce que j'ai suivi un petit peu, puis parce qu'on échange un petit peu, et il y a un après. Donc il y a 2 ans, finalement le processus de deuil commençait à peine, parce que Jean est décédé d'un cancer, donc il y avait toute cette phase de maladie aussi à process, il y avait ça commençait, je pense seulement, dis-moi si je me trompe. Hein,
ah oui, complètement.
Après notre enregistrement, combien de temps s'est passé entre le moment où tu as eu l'impression de reprendre un peu l'air et respirer un petit peu, sortir de la tête de ce deuil immédiat?
Alors, ma réponse va être, je pense, assez surprenante, mais je pense que je n'y étais pas encore.
Ah ouais?
Ouais, je pense que j'y étais pas encore et je l'ai compris après, quand je suis vraiment descendue très bas. Ouais. Et je pense qu'au moment où on a enregistré, je pense que j'étais encore en état de sidération et de mise à distance complète de la situation. Je l'ai compris après, je l'ai compris aussi en réécoutant, voilà, quelques mois après le podcast, et puis par tout le process hein, qui s'en est suivi sur les mois d'après. Mais oui, 5 mois, 6 mois après, j'étais en état encore de sidération et de mise à distance, clairement. Et ça a duré, je pense, quasiment 1 an, finalement, cet état où où j'étais un robot, j'étais en mode automatique, que ce soit au moment où j'ai repris le travail, avec ma fille, avec mes amis, et où en fait je donnais une image, alors sans le vouloir, hein, c'était pas du tout quelque chose de réfléchi, mais je donnais une image très, voilà, ça va, je suis forte, j'y vais, ça va aller, alors que non, pas vraiment, ça n'allait pas, mais je pense que c'était trop émotionnellement, c'était, il y avait trop d'émotions, trop de choses, trop, c'est, il y avait, voilà, c'était trop, et je pense que j'étais un petit peu comme une grosse cocotte minute, tu sais, qui est prête à exploser, et où du coup tu mets le couvercle pour surtout que rien ne dépasse, et au bout d'un an, bah ça a fini par exploser, parce que tu peux pas rester comme ça toute ta vie, en fait.
Non, puis en fait, finalement, c'était quand même hyper rapide, la maladie de Jean hein, s'est dégradée très vite, c'était quoi, 6 mois un peu,
ouais, plus. C'est ça, il y a eu 7 mois de maladie entre le moment où on l'a su et le moment où il est décédé, donc 7 mois. Et puis c'était la période du confinement, hein, ouais. Confinement, Covid, tout ça. 7 mois et ouais, 7 mois de très maladie. Rapide. Et
en postpartum.
Et on s'est vu en postpartum avec un enfant de 15 mois. Et ouais, il y avait trop. Ouais. C'était trop.
Quand tu dis que la cocotte minute finalement a explosé, ça s'est traduit comment?
Alors, ça n'a pas été du jour au lendemain. Je pense que 1 an après son décès, donc en octobre 2021, j'ai commencé, voilà, au boulot, c'était pas évident. J'avais repris, voilà, j'avais repris à temps plein. Je gérais ma fille seule, H24, un enfant de 2 ans et demi qui n'était pas évident. Et voilà, il y a eu entre septembre et décembre vraiment un sentiment de dégringolade chez moi où je me voyais en fait gérer de moins en moins et aller de moins en moins bien et sentir que vraiment s'il n'y avait pas quelque chose qui me mettait le holà, si je puis dire, s'il ne se passait pas quelque chose, enfin j'allais dans le mur en fait, vraiment. Et la meilleure chose entre guillemets qui me soit arrivée, c'est qu'en janvier, après les vacances de Noël, donc janvier 2022, j'ai eu le Covid et qui m'a mis à terre, mais parce qu'en fait j'étais épuisée, j'étais exténuée physiquement, psychologiquement, et quand je dis que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est qu'à ce moment-là j'ai vu mon médecin et qui me connaissait bien, mon médecin généraliste, hein, qui avait suivi durant toute la maladie de Jean, qui m'avait suivi sur l'après, etc., et qui m'a dit mais en fait là vous allez vous arrêter. Je l'ai remercié vraiment parce qu'en fait je l'aurais pas fait de moi-même et que qu'après coup je me suis dit mais en fait s'il m'avait pas arrêté, je pense que 1 mois après je me faisais interner. De dépression en fait, voilà, c'est le mot, hein. Et donc à ce moment-là il y a vraiment eu un virage en janvier 2022, donc au moment où je me suis arrêtée. Où pendant un petit mois, je dirais, j'ai pas tout de suite été voir quelqu'un, enfin un psychiatre.
T'avais pas fait la démarche d'avoir un psychologue ou quoi, même après le décès de Jean et tout ça?
Non. Alors, j'avais tenté, à vrai dire, mais c'était une période où avoir des rendez-vous, que ce soit chez des psychologues ou chez des psychiatres, c'était la croix et la bannière, quoi. Je me revois quelques semaines peut-être après qu'on ait enregistré, contacter des professionnels et laisser, je sais pas moi, une quinzaine de messages, ou d'avoir les personnes au téléphone, de leur expliquer ma situation, et où ils me disaient mais je suis désolée mais en fait je vais pas pouvoir vous prendre jamais. Il faut quoi en fait pour avoir une place? Parce que bon, après c'est très bien, hein, c'était une période où effectivement je pense post-Covid, où on parlait plus de santé mentale, où les gens ont plus fait la démarche d'aller voir des professionnels, mais c'est vrai que ça avait été très très compliqué de trouver quelqu'un. Et puis tu sais, tu remets bien le couvercle sur la casserole, puis tu dis oh ça va aller.
c'est une question de temps,
ça va aller, voilà, c'est râpé les dents, tout va bien se passer. Et donc ouais, janvier 2022, j'ai eu un petit peu moins d'un mois avant de faire la démarche d'aller voir quelqu'un, mais je me suis fait arrêter par mon médecin. C'est la première fois que j'ai accepté qu'il me prescrive aussi des antidépresseurs. Chose qu'il m'avait déjà proposée à différentes reprises après le décès, hein, tout de suite après le décès de Jean, hein, notamment. Et c'est vrai que voilà, j'étais très, très réticente. Alors que j'ai 5 années de psycho derrière moi, quand même.
Ouais, mais la vision que la société en général a des antidépresseurs, c'est tout de suite des trucs genre tu vas être accro, ça va te changer. Enfin, il y a plein de choses qui. Alors que ce sont des béquilles.
Ah, mais complètement. Complètement. Et vraiment, en fait, le virage qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, c'est de me dire, mais en fait, soit. Tu te fais interner et en fait, tu finis 6 mois à l'hôpital où on te sédate et où tu dors.
De toute façon, tu aurais eu des antidépresseurs.
Ouais, voilà, de toute façon. Et où en fait, tu vas pas pouvoir t'occuper de ta fille, tu vas pas pouvoir. Puis même, je me disais sur le long terme, en fait, je me disais, mais je peux pas en fait rester dans cet état-là actuellement, que ce soit pour moi ou pour ma fille. Et ça a vraiment été. De toute façon, sur ces années-là, après notre enregistrement, enfin voilà, après le décès, après notre enregistrement, Séraphine, ma fille, ça a été ma bouée à la mer, quoi, vraiment. C'est-à-dire que je me disais, mais en fait, pour elle, j'ai pas le choix. Je me dois, en fait, elle a plus de papa, elle a juste sa maman. Elle peut pas perdre en plus sa maman, en fait. Enfin, vraiment, j'ai eu des moments très, très noirs, très sombres, hein, où plus profond de la dépression, hein, voilà, où j'avais qu'une envie, c'était de mourir, hein, clairement. Ouais. Et en fait, Séraphine, c'est ça. Ça a été mon fil à la vie. Ouais. C'était mon fil à la vie. Je me disais, voilà.
C'est beau ce que tu dis.
Ouais.
Et elle réagissait comment, elle, pendant cette période-là?
Je t'avouerai que j'ai plus forcément les idées très claires ou les souvenirs très nets, je pense, sur cette année-là, on va dire. Je pense que, enfin, je faisais tout pour être une bonne mère. Il y a quelques mois, j'ai même dit, mais en fait, j'ai l'impression que j'étais une meilleure mère quand j'étais dépressive.
Parce que qu'aujourd'hui. Fais en sorte de cocher les cases, en fait.
Ah oui, et puis en fait, je faisais tout. Je faisais faire des activités, je construisais des trucs, ouais. Je faisais tout. C'est ça, je remplissais toutes les cases, quoi, pour être la mère parfaite.
Ouais, mais tu vois, et c'est peut-être un peu faire avance rapide par rapport à la suite de l'histoire, mais moi, je pense pas que tu sois une moins bonne mère aujourd'hui, parce qu'en fait, je pense que ce qui est essentiel pour un enfant, c'est une maman heureuse.
Ah oui.
Et tu l'étais pas.
Ah non, mais complètement. Ouais. Complètement. Aujourd'hui, je me raccroche à ça, hein, quand je la mets devant des dessins animés.
Arrête, elle kiffe, ça lui fait une super pop culture.
C'est ça, j'essaie de me raccrocher.
Ah, puis on dit pas d'écran avant 3 ans, mais après c'est bon.
Écoute, je me dis, voilà, on était beaucoup devant les écrans, ça va, on s'en sort pas trop mal.
Non, puis après, il y a quand même des choses, enfin, il y a un moment, t'es toute seule, quoi, et t'as pas de relais. Enfin, autour de toi, en plus, ta famille est pas dans ta région, il me semble.
Non.
Donc, t'es toute seule, donc, enfin, il y a un moment, les écrans, c'est
de la survie,
aussi,
en fait. Ouais. C'est de la survie. Mais oui, pour en revenir à Séraphine, je pense que, voilà, durant cette période-là, moi, je faisais tout pour ne pas lui faire porter le fait que j'étais pas bien, qu'elle ne voit pas de manière explicite, et je le précise bien, de manière explicite, voilà, le fait que j'étais pas bien, je m'effondrais pas, je veux dire, en larmes devant elle. J'ai été arrêtée 6 mois, hein, au final, à partir de janvier 2022. Voilà, je me levais le matin, je la préparais, je l'emmenais chez la nounou, je la récupérais le soir, enfin. Voilà, j'essayais de faire au mieux. Après, c'est a posteriori, en fait, où j'ai senti qu'en fait, bah, ça avait aussi peut-être, très certainement, nourri des angoisses aussi chez elle, que je pense qu'elle a compris que sa maman, elle allait pas bien, et que toutes les problématiques du sommeil qu'on a connues après, qu'on connaît encore un petit peu, ne sont certainement pas inconnues, ne sont pas là par hasard non plus, quoi.
Ouais. Carrément. Et donc, t'es arrêtée. Comment elles se passent tes journées à ce moment-là?
Écoute, alors moi je dors pas beaucoup habituellement, hein, j'ai pas forcément besoin de beaucoup de sommeil, et puis en fait j'ai une vie tellement active que du coup c'est vrai que voilà, je rogne sur le sommeil, et en fait là c'est simple, je pense que je dormais 20 heures par jour. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu pendant un mois et demi où je dormais entre 18 et 20 heures, quoi. C'était impressionnant. Enfin, moi, je me disais waouh. Ouais. C'est-à-dire que quand je te dis vraiment, je me levais le matin, je la préparais, je l'emmenais chez la nounou, je revenais chez moi, je dormais quasiment non-stop jusqu'au soir au moment de la récupérer. Enfin, voilà, j'ai fait une cure de sommeil, en fait. J'ai fait une cure de sommeil. Qui en fait physiologiquement était nécessaire.
Ah bah, clairement. Le sommeil, c'est pas surfait, hein. C'est utile quand même.
Hein. C'est là que tu dis,
ouais. Le corps est bien fait.
Vraiment, donc cure de sommeil pendant un petit temps, antidépresseur, et après rapidement j'ai trouvé une psy. Une psychiatre, et après, mes journées, mes semaines étaient rythmées à ça, quoi. Essayer de trouver un rythme entre du sommeil, mais j'ai gardé des siestes, hein. Enfin vraiment j'ai fait des grosses, enfin je dormais beaucoup pendant un certain temps, hein, quand même, durant mon arrêt, et mes rendez-vous psy, et essayer en fait de prendre du temps pour moi, me retrouver moi, en fait. Parce que à ce moment-là, je me suis aussi rendu compte que j'avais quand même pas mal enchaîné, mine de rien, et que en 2019, j'avais accompagné la vie, et qu'en 2020, j'avais accompagné la mort, et qu'en fait, en 2 ans, ça fait beaucoup pour une seule personne, je crois.
C'est clair. Et tu dis que tu as été accompagnée par une psychiatre. Est-ce que tu pouvais lui parler en thérapie, enfin comme une thérapie?
Oui.
Ou c'était...
Ouais. Oui, oui. On a vraiment fait... c'était une psychiatre, mais avec qui je faisais des vraies séances de psychothérapie, comme avec un psychologue, quoi. Et vraiment, elle m'a énormément aidée. Et c'est là où, moi, aujourd'hui, vraiment, je recommande. Enfin, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que quand vraiment il y a une dépression, puisque ça a été vraiment le diagnostic, hein, qui était posé, hein, les médicaments, c'est important, il faut pas en avoir peur, ça aide vraiment, mais par contre en fait ça va pas sans un suivi psy, quoi, clairement.
En fait, les médicaments, c'est la béquille qui t'aide à entamer le travail, justement, parce que parfois t'es tellement dans le fond du fond que tu ne peux pas, tu n'as pas les capacités d'aller parler, d'aller en thérapie, ou d'aller pour guérir, et le médicament va te permettre justement de retrouver cette force là, d'avoir un moment où ton cerveau il est pris en charge, j'ai envie de dire, pour que tu puisses déverser ce qu'il y a à déverser, pour que petit à petit ça se répare et que petit à petit tu puisses t'en passer. C'est vraiment une béquille. C'est pas une solution. Parce que on peut aussi, enfin parfois, certaines personnes nous dire je vais prendre des antidépresseurs et ça va aller. C'est pas le plus gros du travail, en fait. C'est peut-être ce qui fait un peu peur de prendre des antidépresseurs, mais c'est pas le travail. C'est juste une béquille, vraiment, pour s'appuyer, pour faire le travail.
Ouais.
Et c'est le travail qui te permet d'aller mieux et te permet de guérir, en fait. C'est pas le médicament.
Ah mais je suis complètement d'accord, hein. Tu prêches une convaincue.
C'est pas un antibiotique.
Ouais. Hein. Ah non, mais mais c'est vrai que, et tu vois, ça correspond, hein, vraiment en termes de délai, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à les prendre, je savais qu'il fallait à peu près 3 semaines pour que physiologiquement, l'antidépresseur joue sur tes taux d'hormones, etc., qui participent aussi à l'état dépressif. Et en fait, vraiment, je l'ai senti au bout de 3 semaines. Tu sais, tu sors à peine comme ça les yeux de l'eau, alors que tu avais la tête dans l'eau, et te dire, OK, là, il y a peut-être un truc. C'est peut-être le moment, en fait, d'aller plus loin. Et d'ailleurs, à un moment donné, je me suis vue, au bout de quelques mois, où je sentais que voilà, ça allait un peu mieux, j'étais prise en charge par la psy, j'avais les médicaments, mais que c'était encore très compliqué, et j'ai revu les dosages avec elle, tu vois. J'ai revu les dosages avec elle et pareil, en fait, à ce moment-là, quand j'ai revu les dosages un petit peu à la hausse, bah, pareil, j'ai senti voilà, rapidement, physiologiquement, cette béquille, en fait, qui te permet justement d'aller creuser sur ce qui ne va pas, qui était impossible, en fait, sans médicaments, quoi.
Ouais, carrément. C'est important, tu vois, je te posais la question par rapport au psychiatre parce que financièrement, je pense que ça change la donne, un psychiatre et un psychologue, parce qu'est-ce que c'était remboursé par la sécurité sociale ?
Oui, en l'occurrence, c'était remboursé.
Et ça, quand on est maman solo, enfin, je veux dire, tu sais que toi, en plus, maman solo, arrêt maladie, financièrement, si tu avais dû avoir un psy en ville, enfin, un psychothérapeute en ville, ben, c'est pas la même, enfin, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc ça change tout.
Ah bah, c'était une des raisons aussi pour lesquelles je suis allée voir un psychologue, parce qu'après, bon, voilà, au niveau du traitement, alors après, c'est elle qui m'a suivie aussi au niveau du traitement avec les antidépresseurs, mais voilà, elle est restée sur les mêmes choses finalement que m'avait prescrit mon médecin. Il aurait pu poursuivre finalement, lui, l'aspect médicamenteux et avec une psychologue le suivi, mais clairement, enfin, moi, j'allais la voir toutes les semaines, ça aurait été un budget énorme, et puis c'était inenvisageable de l'avoir moins qu'une fois par semaine, quoi. Je me souviens une fois où elle est partie en vacances 15 jours et je l'ai vécu comme un abandon, quoi. Je me suis dit, mais on va pas se voir pendant 3 semaines. Mais comment je vais faire? Mais ça va pas être possible. J'ai des angoisses qui remontaient, quoi. Vraiment, de me dire, oh là là, mais. Bah écoute, c'était dur, mais ça m'a fait du bien aussi, finalement, de me rendre compte que. Ce sur quoi on travaillait, et que mes forces, en fait, c'était pas elle, c'était ce qu'elle mettait en avant de ce qu'il y avait en moi. La phrase n'est pas très claire, mais on a compris l'idée.
Mais oui, mais parce qu'en fait, les thérapeutes sont pas là pour nous donner les réponses. En fait, en vrai, c'est encore une fois nous qui faisons le travail. Hein. C'est toi qui as fait le travail. Ouais. C'est toi qui sors les choses. Et elle a ce regard extérieur pour pointer les choses que tu vois pas forcément toi toute seule, mais qui disent « Ah oui, d'accord, donc c'est pour ça, par exemple, que je réagis comme ça. » Ou « Ah oui, cet événement-là a eu un impact. » Et en fait, presque ça valide. Parce que parfois...
Mais c'est vraiment ça. C'est ce que je voulais dire aussi, c'est que moi je crois que j'ai eu du mal à aborder cette phase-là vraiment où de me dire ok en fait Charlotte ça ne va pas, tu es en pleine dépression, tu vas dans le mur, c'est pas possible, c'est de tomber en plus sur une dame alors qu'il y a plus de 70 ans, hein, psychiatre, et en fait de voir quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui avait déjà une certaine expérience de vie et professionnelle, me dire ok, ce que vous avez vécu en fait c'est horrible, et je crois que je m'étais vraiment à distance et que j'avais tendance à, après oui c'était une mise à distance, hein, pour pas vivre de manière trop brutale finalement les choses, tu sais, tu dis oh ça va, t'as tendance un petit peu à ne plus voir en fait ce qu'il représente,
mais c'est dur de vivre des émotions comme ça, des tristesses intenses, parce que c'est ça en fait, de vivre cette tristesse. Je pense pas qu'on soit préparé à vivre vraiment nos émotions. Alors aujourd'hui on apprend à nos enfants un peu les émotions, tout ça, mais alors on l'apprend à nos enfants parce qu'on sait que c'est bien, mais est-ce qu'on se l'applique à soi-même, tu vois? Je suis pas sûre, c'est dur, hein, parce que nous en tant qu'enfants, ben c'était peut-être pas les mêmes c'est pas les mêmes façons de faire à l'époque, et on n'a pas appris à vivre les émotions. Et quand on pense émotions de tristesse et surtout de grande tristesse comme toi tu as connu, ben on n'a pas envie de les vivre parce qu'on sait que ça va être douloureux. Et en fait on ressent une émotion de peur par rapport à une émotion de tristesse.
Et puis j'avais tendance à ne pas trouver légitime le fait d'être mal et de sous-estimer le trauma en fait et la dureté des événements qu'on avait vécu et de la perte etc. Et en fait je m'en rendais compte parfois en racontant voilà ce qui s'était passé, etc., comment on avait vécu, et où je me suis retrouvée parfois dans des situations absurdes, hein, mais genre chez l'assureur, avec la dame qui se met à pleurer face à moi, par rapport voilà, à ce que je lui raconte, etc., et où j'avais une telle mise à distance pour ne pas vivre, encore une fois, c'est ça, ces émotions qui étaient trop dures à supporter et à vivre, de me dire, oui, enfin, ça va, quoi.
Presque, tu l'as consolée, presque.
Presque, quoi. Puis elle me dit, oh, ça va. Enfin, je veux dire, il y a pire dans la vie. Hein.
Des gens, il y a toujours pire.
Il y a des gens qui ont pas à manger, qui sont sous la guerre. Non, mais enfin, tu vois, je me dis, mais oh, ça va. Enfin, t'as le droit, en fait, de dire que ce que t'as vécu, c'est, voilà, c'est triste, c'est dur, c'est violent, c'est injuste. Enfin, t'as le droit, en fait. Et beaucoup de gens trouvent que c'est... voilà.
Mais c'est ça, parce que c'est pas comme si on te le renvoyait pas, tu vois. De se dire... Ah ouais, bon, ok. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Enfin, je veux dire, souvent, j'imagine que quand tu racontes ton histoire, c'est pas la réaction que tu as.
Non, effectivement.
Tu vois, moi, j'ai quand même fait plein de centaines de kilomètres pour pas que tu racontes cette histoire toute seule chez toi devant un écran. Hein.
C'est vrai,
dire,
c'est vrai.
Je fais peu ce genre de choses, quand même.
Non, mais tu vois, comme quoi, ouais. L'esprit humain, quoi.
Mm. Ben ouais, mais après, c'est juste de la protection, en fait. Tu te protèges.
Mm, c'est exactement ça, quoi.
Et puis, tu dois aussi protéger en même temps. Ta fille vit ces émotions-là aussi.
Mm.
Et ça, tu dois les prendre et prendre sa colère, probablement, sa tristesse aussi, d'avoir perdu son papa. Et en tant que mère, quelles que soient les situations, je pense qu'on privilégie souvent les émotions de nos enfants et on met un peu trop sous le tapis les nôtres.
Ah ben, c'est ce que j'ai fait pendant un an et demi, en fait. Ouais. Enfin, un an et demi, quoi. C'est ça, de me dire, en fait, tu es mère, tu es parent solo avec ton enfant, tu te dois d'être le meilleur pour elle, tu te dois, tu te dois d'aller bien, tu te dois de tout faire pour qu'elle aille bien, pour faire comme si elle avait finalement deux parents.
Mais et puis peut-être se dire que tu vois, tu disais il y a pire. Mm. Est-ce que dans ta tête tu disais que c'était pire de perdre un papa que de perdre un mari?
En toute honnêteté, non, je suis pas sûre. Je sais pas. C'est franchement, c'était deux douleurs différentes. C'était deux douleurs différentes et ça reste encore aujourd'hui finalement, d'une certaine manière, deux douleurs différentes, et que je trouvais que pour moi c'était injuste et que pour elle c'était injuste. Alors oui, la seule peut-être différence, c'est que moi je me disais, bon, un jour peut-être, je l'espère, j'irai mieux et voilà, et j'aurai de nouvelles pages à mon histoire, comme il le voulait d'ailleurs, hein. Mais par contre, de me dire, elle, son papa, en fait, son papa à elle, son papa biologique, qui l'a désiré, avec qui je l'ai faite, lui, elle l'aura plus jamais, en fait. Et ça a été dur, et ça l'est encore parfois aujourd'hui, quoi.
À partir de quand tu as ressenti les effets positifs de ce travail-là, de ton arrêt et de ce travail-là?
Finalement, mon médecin et ma psy te diront très rapidement. Non, parce que les effets bénéfiques, je les ai ressentis si rapidement. En vrai, je savais qu'il fallait que je le fasse, il fallait que j'en passe par là, et que si je voulais avancer, voilà, c'était un passage obligatoire et inévitable, quoi. Mais tu vois, finalement, j'ai repris le travail à mi-temps, en mai, fin mai.
Ouais. Mais ça t'a fait du bien de reprendre le travail? Enfin, c'était quelque chose que tu voulais?
Ça a été à ma demande. Ça a été à ma demande. Moi, ma psy était clairement pas pour. Médecine du travail n'était pas pour non plus, que j'ai vu à ce moment-là. Comme quoi, les médecins du travail...
Il y en a des bons. Hein.
Franchement, j'ai été très surprise. Mais oui, je l'ai vu peu de temps, je sais plus, avant ma reprise, dans le process de reprise, etc.
Mais c'est obligatoire. C'est comme quand je retourne de congé maternité, quand il y a un long congé, un long arrêt maladie, pas congé du tout, il y a une visite de reprise,
C'est ça. Et ouais, même la médecine du travail trouvait ça trop rapide. Ma psy trouvait ça rapide, mais elle m'a suivie, en fait. Puis j'ai repris à mi-temps aussi pendant quelques mois. Et en fait, je l'ai fait parce que vraiment, à ce moment-là, j'en ressentais le besoin. C'est-à-dire que c'était aussi, finalement, reprendre et réinvestir le travail. C'était aussi me retrouver moi, tu vois, en tant que personne, parce que j'aime ce que je fais et que j'y trouve, voilà, une forme d'épanouissement aussi, et que c'était aussi finalement, voilà, me retrouver moi, tout en leur disant, ok, on y va à mi-temps pendant quelques mois, et voilà. Et puis elle arrêtait pas, enfin voilà, elle m'a beaucoup rassurée aussi, même si par rapport à ça, à me dire, ben voilà, on essaie, de toute façon on continue à se voir, on fait le point dans 15 jours, voilà, s'il faut de nouveau vous arrêter, ben on s'arrête de nouveau, quoi.
Ouais. Oui, c'est pas définitif et t'es pas obligé d'y retourner si ça va pas, quoi.
C'est ça,
Mais c'est ce qu'on
faut
va,
savoir s'écouter, quoi.
ce qu'on appelle les mi-temps thérapeutiques.
Ouais, c'est ça, ils sont très bien. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que pour le coup, reprendre à temps complet après un arrêt comme ça,
Bah surtout si tu as encore un suivi en plus hyper important, enfin tu es encore dans la maladie, hein, mine de rien, parce que n'oublions pas quand même que la dépression est une maladie. Et tu y es encore, donc en fait ce serait un peu. Enfin, c'est pas une maladie dont tu guéris du jour au lendemain, en fait. C'est
Ah
vraiment
non.
sur le temps long.
Ouais, bah à ce moment-là, en mai, j'ai repris. Tu vois, j'avais encore, voilà, j'étais encore sous médication, j'avais encore mon suivi. Enfin, voilà, c'est pas arrêté du jour au lendemain non plus, c'est clair.
Tu avais une vie sociale à ce moment-là?
Alors, j'en ai eu une vraiment, je dirais, avant la phase vraiment down de la dépression, donc de janvier 2022. Oui, je voyais du monde, et en janvier, je me suis vraiment renfermée, en fait. À ce moment-là, c'était trop, en fait. C'est, voilà, même répondre à SMS d'amis, j'y arrivais pas. Enfin, voilà, j'avais une coupure complète, mais avant, oui, je voyais quand même du monde. Et puis c'était une période, tu sais, c'était une période après le décès où bah, tu es très entouré quand même, mine de rien. Ce qui n'est pas évident, en fait, et je comparerais ça un petit peu pour faire lien à la parentalité et ton podcast, au postpartum, et tu sais, où au début, tu as beaucoup de monde qui est là, etc. Et puis en fait, les vies reprennent leur cours. Et toi, tu es toujours là
Et
avec...
c'est au moment où t'en as le plus besoin qu'il n'y a plus personne.
Ouais, c'est ça. Alors, j'en veux pas, si tu veux. Voilà, j'en veux à personne. Et puis, ça fait partie de la vie, en fait. La vie, elle continue, et voilà, les choses reprennent. Mais pour avoir échangé avec des personnes dans ma situation, qui perdent, voilà, leur compagnon, leur compagne, c'est ouais, les premiers mois, c'est là où t'es le plus entouré. Et en fait, c'est pas les pires. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment les six, au bout de 6 mois, au bout d'un an, où là. La perte et tout l'effondrement qu'il peut y avoir autour paraît plus concret, quoi.
J'allais dire c'est presque logique, mais oui, c'est ce que tu dis, c'est que la vie continue dans un sens
Oui,
et
c'est
que en
ça.
fait tu te rends compte de ta vie qui continue mais qui n'est plus la même.
C'est ça. Et que tu dois reconstruire autrement,
Autre chose, ouais, autrement.
différemment.
À quel moment tu as repris une vie sociale après ton traitement et est-ce que tu as repris la vie sociale que tu avais, c'est-à-dire est-ce que tu as, tu vas savoir où je veux aller,
Ouais.
mais est-ce que tu as cherché à rencontrer des nouvelles personnes ou alors tu es resté dans tes anciens cercles?
Alors, quand j'ai commencé à aller vraiment mieux par rapport à ma dépression, là, je suis beaucoup sortie. Et là, j'ai
Madame
repris
fait
une
la
vie
fête.
sociale très, très active.
Ouais. Ah bah ce qu'on dépensait pas en psy, on le dépense en babysitter, hein,
Non, et par contre, je dois dire que là, j'ai vraiment senti de mon entourage, enfin, ils étaient heureux, en fait, parce
Ouais.
que je pense que j'ai beaucoup de personnes qui avaient envie d'être là, qui m'ont certainement, à des moments, voilà, fait des tentatives, enfin, tu vois, envoyé des messages, fait des tentatives pour venir vers moi, et où moi, je pouvais pas, en fait, vraiment. Et où juste je me renfermais sur moi, et ce moment où j'ai commencé à sortir de ma carapace et à dire ouh, et je commence à revivre à
Oui, tu
l'intérieur.
dansais sur les barres, dis-le.
On ne disait pas loin. Et donc, par contre, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai été très entourée et pour sortir et pour m'aider à sortir, c'est-à-dire pour, voilà, pour me garder ma fille, pour, voilà, voilà. Et
Non,
c'est à
pour te
ce
soulager.
moment-là,
Et
ouais,
c'est
pour me
à ce moment-là
soulagement.
que... Attends,
Et
pardon, parce
c'est
que je t'ai coupé, mais là, je suis pas d'accord de te couper. Je me tais, je me tais.
Tu veux la suite?
Oui.
Non, c'est à ce moment-là où en fait je me suis sentie prête à envisager des rencontres avec des hommes.
Oh,
Voilà.
c'est l'instant croustillant du podcast.
C'est ça. Tout
Ça,
mon
c'est très...
entourage est au courant de tout, donc tout va bien.
Oui, mais pas les auditeurs et les auditrices de Prenons un café. On veut savoir.
Alors, donc à ce moment-là, donc c'était l'année dernière, hein, printemps donc de l'année dernière. Oui, moi à ce moment-là, j'avais 36 ans. J'avais vécu quand même des histoires longues, etc. Et j'ai découvert un monde. C'est une amie hein, qui un soir m'a dit, allez, on en parlait et tout. Je dis, ah, mais pff, c'est pas évident, rencontrer des nouvelles personnes. Tu vois, t'as 35 ans passés. Enfin,
T'as
non,
un
oui.
enfant.
T'as un enfant en plus, à temps plein, ce qui change quand même pas mal la
Oui,
donne par
complètement.
rapport au, voilà, aux séparés, divorcés, etc. Et puis en fait, tu sais, tu as tes amis, tu tournes avec tes cercles d'amis, puis tu rencontres pas forcément de nouvelles personnes.
Ah non, il faudra attendre qu'ils divorcent. Mais bon, c'est pas ce qu'on souhaite
C'est
à nos amis.
ça. Donc oui, j'ai découvert un monde avec les applications de rencontres.
Et c'est comment? Parce que moi je connais, mais
C'est
dans la
génial.
vingtaine, mais pas dans la trentaine.
Écoute, franchement, non, je dis c'est génial, j'en ris, mais alors moi, je n'ai vécu que des bonnes expériences. J'ai
Ah,
pas
trop
eu
chouette.
d'expériences négatives où je suis tombée sur des mecs chelous, où je me suis dit oh là là. Non, franchement, les personnes avec qui j'ai daté, parce que j'ai pas mal daté à ce moment-là, du coup. Non, j'ai eu que des bonnes expériences. Enfin, voilà. Donc j'en garde vraiment voilà, une expérience positive. Mais par contre, t'as 35 ans, tu vas sur les applications de rencontres. Alors j'ai une amie qui me disait, mais tu chopes la deuxième vague.
C'est pas faux.
Tu vois ce que je veux dire?
Ils ont déjà eu
Vraiment.
une vie aussi.
C'est ça, ils ont eu une vie, ça faisait 10 ans, 15 ans qu'ils étaient avec l'autre, et puis séparation, et vraiment, c'est ça, 35 ans, t'as la deuxième vague, quoi. Tu surfes sur la deuxième vague.
Donc finalement, il y a de quoi faire.
Ah, mais moi, j'ai été impressionnée. Je me suis dit, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de célibataires dans
Mais enfin,
Strasbourg.
Charlotte.
J'étais pantoise, hein, vraiment. Hein. Non, c'est un côté. En tout cas, moi, c'est la manière dont je l'ai vécu. Hein, un côté très, puis très valorisant. C'est-à-dire que j'avais 35 ans. Voilà, j'avais plein de mecs de 30 ans qui,
Des petits jeunes.
voilà, des petits jeunes qui venaient me voir, avec qui, voilà, avec qui, enfin, que j'ai rencontré, etc. Ouais, il y a un côté. Et puis vraiment, tu sens que. Il y a beaucoup plus de nanas que de mecs sur les applis. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu,
Ouais.
quoi. Vraiment, pour en discuter aussi avec des amis hommes qui, eux, galéraient, etc. Ils me disaient, ouais, j'ai envoyé un message, elle ne me répond pas. Je disais, mais mec, moi, j'en reçois 50 des messages par jour. Tu te rends pas compte, tu peux pas répondre à tout le monde, quoi. Donc, t'as un peu, vraiment, ça te redore l'ego.
T'as un peu l'impression d'avoir le pouvoir, en fait.
Ah ouais, mais complètement. Ah mais complètement. Mais en tout cas, voilà, petit aparté, je recommande vraiment, hein, si vous avez des craintes, allez-y. Hein. Bon après, j'étais pas, je sais pas si on a le droit de citer.
Oh, si, on n'est pas sur une grande chaîne de télé,
Ça
hein.
va, hein.
Tu peux
Moi,
y aller.
j'étais pas sur Tinder, quoi. Donc j'étais sur Appen, qui
Ok.
te géolocalise. J'y reviens pour la suite. Et sur Bumble, que je recommande, qui vraiment est très très bien, avec
Ok.
qui, enfin voilà, ouais, je trouvais que c'était une application de qualité.
Eh ben écoute, nous prenons les recommandations de Charlotte. Je vais faire un post, tu sais. Au premier épisode, on avait fait un post recommandation de livres pour les enfants sur le deuil et tout ça. Là, on va passer à la recommandation sur les applis de rencontre.
3 étoiles, 4 étoiles.
Écoute, peut-être ça va me faire un partenariat, tu sais. Ils vont vouloir sponsoriser le podcast.
Bumble, Bumble. Moi, je prends. Ils sont super, vraiment. Je recommande. Moi, j'ai adoré.
Mais c'est quoi la différence? Enfin, t'as pas utilisé Tinder, mais du coup, c'est quoi la différence en fait de ces applis avec d'autres?
Sur Bumble, après, c'est peut-être plus une application de niche, tu vois, qui est moins connue, ouais, qui est moins connue peut-être du grand public, entre guillemets, ouais. Et bon, peut-être que ça
c'est
fait
un peu
le
plus
tri
sérieux
par rapport au public que moi, je ciblais. Ouais. Tu vois, genre, ouais, sans vouloir...
Oui, non, mais voilà, peut-être plus sérieux. C'est vrai que
je
Tinder,
reste très
en fait...
politiquement correct, hein, comme
je
tu
vois
peux
ça.
Le voir.
C'est
hein,
bon, c'est bon. C'est... Respect. Non, mais peut-être que tu vois, genre Tinder, c'est le premier réflexe parce que c'est quelque chose de très connu. Mm. Donc forcément, il y a un peu tout le monde parce qu'on ne cherche pas forcément à aller plus loin ou à en connaître d'autres. Parce que moi, tu vois, les... Bon, après, je suis pas sur le marché. Mais... mais je connaissais pas, tu vois. Alors que Tinder, je connais, mais j'ai jamais utilisé, mais je connais. Moi, à mon époque, c'était Adopte un mec.
Ah oui.
Mais je parle d'une époque lointaine d'il y a 10 ans. Mais c'était ça. Et je pense que ça existe encore. Mais tu vois, j'aurais... si aujourd'hui je me retrouvais célibataire, par réflexe, j'irais pas sur cette appli parce que ça a une image assez jeune, tu vois, pour moi.
Ouais.
Et c'est peut-être pas ce que je rechercherais.
Bah c'est oui, c'est peut-être ça aussi. Mmh. Et comme dit, c'était voilà des personnes qui me correspondaient plus.
Toi, tu voulais la deuxième vague.
Je voulais la deuxième vague, moi je voulais surfer.
Donc tu surfes?
Ben écoute, j'ai bien surfé, c'est-à-dire que vraiment, bon après je pense que c'est dans mon caractère, hein. C'est-à-dire que tu vois, je me mets un projet, je dis ok vas-y t'y vas à fond quoi.
Le projet dating. Moi, j'aime bien.
Voilà, donc vraiment, ouais, j'avais mon planning, mon emploi du temps, tu vois, je datais plusieurs soirs dans la semaine.
Fallait pas se tromper de prénom, hein.
Oh là là, ouais, je faisais un truc horrible.
Qu'est-ce que tu faisais? Moi j'adore,
non,
je veux savoir.
Écoute, tu sais rapidement sur ces applis, après tu passes sur WhatsApp, parce que plus facile, voilà, etc. Et c'est vrai que du coup, pour savoir qui était qui et pas me mélanger, je mettais toujours donc le prénom avec un petit... Tu vois, genre leur métier ou...
Un pense-bête.
Exactement.
Bah écoute, si ça marche, moi je veux dire franchement...
je voulais pas les vexer quand même.
Bah c'est ça. Attends, c'est d'intérêt presque public. Hein.
Exactement, exactement.
Et d'où tu disais, t'as à chaque fois rencontré des personnes chouettes. Avec qui le courant passait bien. Vous parliez de tout, de rien. Enfin, vous parliez de... Tu cachais des choses ou pas trop?
Non, c'est-à-dire que dans ma situation, je me disais, ok, je veux pas perdre de temps. Encore une fois, hein, je suis mère célibataire, donc tu vois, t'as un enfant, tu le réussis à le caser, il faut que tu rentabilises voilà, ton temps, quoi. Hein, je veux dire, donc voilà, moi, avant de les rencontrer, clairement, tu vois, ils connaissaient ma situation. Ouais. Ils savaient, voilà, ils savaient que j'avais perdu mon mari, ils savaient que j'avais une fille, que je l'avais à temps plein, etc. Enfin, voilà, il n'y avait pas de secret par rapport à ça. Et puis parce qu'en fait, moi j'aurais détesté qu'on me fasse l'inverse où t'arrives au rendez-vous et « Ah au fait, je t'ai pas dit !» Donc non, moi j'étais,
et
je pense...
Ouais. Partie du process de rencontrer quelqu'un.
Bien sûr, bien sûr.
Bon, puis tu dates, et puis un jour tu dates quelqu'un de plus, il me semble.
Ouais. J'y suis allée par étapes, finalement. Et c'est, tu vois, ah oui, c'est là-dessus où je voulais en revenir aussi par rapport au date, c'est que ça m'a fait du bien aussi parce que j'avais besoin d'y aller par étapes. Parce que mine de rien, bah, c'était pas évident pour moi de me projeter, en fait, avec quelqu'un d'autre, d'avoir des relations avec quelqu'un d'autre, ne serait-ce que même embrasser quelqu'un d'autre, en fait, au départ, tu vois, que puis là, voilà, la culpabilité que je pouvais avoir parfois, etc. Donc, tu vois, c'est horrible à dire, mais ils m'ont un peu servi d'étape, ces messieurs.
Mais non, mais je pense que c'est ça, c'est que si t'avais rencontré, genre, le grand amour bis... tout de suite, bah en fait
ça aurait été trop dur,
ça doit être perturbant,
ça aurait été trop violent,
ouais, carrément. Mais donc, comment tu vis justement ces étapes de dating, parce que tu t'es pas séparée du père de ta fille, il y a pas eu de désamour,
non,
Comment tu vis ça? Comment ça se passe?
Bah, je pense que ce qui m'a vraiment aidée, c'est que c'est quelque chose dont on avait parlé, en fait, avant qu'il décède. Que oui, c'est quelque chose qui... Enfin, il ne voulait pas, en fait, que je reste seule. Il ne voulait pas... Donc oui, ce qui m'a aidée, c'est ça. C'est que Jean m'avait projetée sur l'après et que d'une certaine manière... il m'avait autorisé et qu'en fait c'est ce qu'il voulait pour moi clairement. Voilà, c'est une de ses peurs, voilà, que je reste seule et malheureuse, et même pour Séraphine, en fait, tu vois, il me le disait pour moi, et il disait voilà, pour toi c'est important, pour Séraphine c'est important, et c'est bien aussi, et il faut que vous, voilà, il faut que tu acceptes aussi d'aller de l'avant. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi, quoi, clairement, à l'envisager.
Mais il y a la conversation, est-ce qu'on te dit, mais le vivre en vrai, tu vois.
Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je te disais, après, malgré tout, il m'a fallu des étapes, c'est-à-dire, c'est... voilà, j'ai le premier garçon avec qui j'ai échangé, j'ai celui, tu vois, avec qui j'ai rencontré, j'ai eu le premier bisou. Enfin, à chaque fois, je sentais que j'avais vraiment besoin de le faire... ouais, par étape. Ouais. Ok, j'ai réussi à passer le cap de cette étape-là. J'ai réussi à passer le cap de cette étape-là, tu vois, et à pas le vivre comme une, oui, comme une trahison vis-à-vis de Jean ou quoi. Et puis en fait, l'entourage aussi m'a beaucoup beaucoup aidée. C'est-à-dire d'avoir et ma famille et mes amis et sa famille aussi voilà, qui était content pour moi à l'idée que j'ai envie de, voilà, de vivre aussi à ce niveau-là, et le fait qu'ils en soient heureux pour moi m'a énormément aidée, ouais. Clairement.
Ouais, j'imagine. Donc, tu passes ces petites étapes.
Voilà.
Et je t'emmène, hein, tout doucement, tranquillement. Et toutes ces petites étapes, et puis un jour, tu as passé toutes les étapes, donc tu es un peu plus prête.
Oui, bah, ça a été rapide finalement, ouais. Hein, puisque donc, j'ai rencontré Vincent. En fait, on s'est pas rencontrés tout de suite, même on a échangé, parce que juste avant qu'on parte l'un et l'autre en vacances, on a échangé effectivement, fin juillet, quoi, quelque chose comme ça, mi-juillet, bon, sachant que j'étais sur les applis depuis début juin, tu vois, donc c'était pas...
Oui, c'est un peu rapide.
Tu vois, quand je te dis j'ai rentabilisé mon temps, vraiment...
Ouais, quand je dis c'est un peu rapide, c'est absolument pas un jugement, hein, parce qu'en fait, je me dis en même temps, ouais. Bah, en fait, ça va vite aussi, dans ces... parce que pour l'avoir vécu, ouais. Hein, le truc de l'appli, ouais. En fait, ça peut aller très vite. Hein.
Ouais. Oh ouais, complètement. Et puis voilà, on s'est pas vu tout de suite parce qu'on partait en vacances, on a pas mal échangé et on s'est vu à la rentrée en fin août, à nos retours de vacances respectifs. Et voilà, et ça va faire un an bientôt.
Wow. Et alors, est-ce que c'était différent dès le départ? Est-ce que tu as senti que c'était pas une étape, enfin que c'était pas un...
Alors peut-être pas tout de suite. Alors j'ai senti si que c'était différent dans nos échanges. Parce que tu sais, moi j'ai besoin d'une connexion intellectuelle, comme ça, un échange. Ouais. Et que ça matchait vraiment bien à ce niveau-là. Et après, c'est vrai qu'on a eu le temps, en fait, puisqu'on était 3 semaines en vacances chacun. Donc, effectivement.
Ça suscite une petite envie, ouais. T'as un truc, t'étais loin. Ouais. Physiquement, tu peux pas.
Bah ouais. Juste... C'est ça, et c'est celui finalement avec lequel j'ai le plus échangé longtemps, ouais. Avant de le voir, parce que sinon, ça se passait effectivement en 2-3 jours, quoi. Ouais. Donc, et je pense que ça a participé aussi à ce qu'on apprenne à se connaître finalement, et puis c'était très fluide, en fait. C'était fluide, c'était simple. Enfin, c'est vrai que c'était un peu stressant du coup aussi, parce que quand on s'est rencontrés, moi je me disais oh là là, mais. Déception, tu sais, si jamais, ouais. Tu le rencontres, puis pouf, c'est... Ok, bon.
C'était bien en photo.
C'est ça, on peut encore échanger si tu veux. J'avais un peu peur du coup, ouais, vraiment de la déception, quoi. Parce que je sentais que c'était différent et que ça pouvait être différent. Et que du coup, l'idée de projeter sur une relation de couple devenait vraiment réelle. Et évidemment, c'est à ce moment-là que moi, ça me fait un peu peur.
Est-ce que tu serais du genre à éviter de ressentir des émotions, Charlotte ?
Je ne sais pas.
Est-ce Parce que depuis qu'on parle tout à l'heure, c'est vraiment pas ce que j'entends, pourtant.
Voilà, hein, ça.
Ah bah parfois ce type d'émotion-là, ça fait peur aussi.
Puis comme dit vraiment le passage entre, tu sais, le fantasme de rencontrer quelqu'un, et puis oui, la réalité d'être sur un couple, bah c'est pas, voilà, c'est pas toujours simple. Et puis ça l'a pas toujours été, même si ça s'est très bien passé finalement, voilà, très rapidement et qu'on a, je pense, réciproquement ressenti des sentiments amoureux assez rapidement. Bah ça, voilà, ça m'a pas empêché à certains moments, à des dettes clés aussi par rapport à Jean, tu vois, de pas être bien et d'être un peu perdu voilà, et d'avoir tous les sentiments qui se mélangent. C'est le monstre des émotions dans le livre pour enfants que l'on connaît bien sur les émotions.
Nous l'avons recommandé il y a 2 ans.
Voilà, que je lis tous les 2 mois pourtant.
Il faut le lire pour toi, Charlotte.
Je vais le mettre sur ma table de chevet, je crois.
Ouais, fais ça. Mais c'était des... bah après, c'est des peurs qu'on, je pense, rencontre dans beaucoup de cas de figure de couple. Mais dans ton cas de figure, ces peurs, est-ce que tu arrives à identifier à quoi elles étaient liées ? Est-ce que c'était peur de le perdre ? Peur d'une nouvelle histoire ? Peur d'oublier, Jean ? Qu'est-ce que c'était ?
Bah, y avait un petit peu tout ça, en fait. Il y a eu un moment donné... Allez, je peux faire de mystère, hein, parce qu'il a quelques années de plus que moi. On a presque 10 ans et c'est, il va me dire c'est horrible. Mais en fait, ça me l'aurait peut-être fait avec n'importe qui, hein. Mais j'ai eu ce truc de, je recommence pas une deuxième fois en fait à accompagner quelqu'un vers la mort, quoi.
Non, mais c'est pas horrible en fait. C'est un sentiment légitime et d'autant que tu l'as connu hors vieillesse, en fait. Parce que Jean était très jeune et qu'en soi, ça pourrait arriver. Mais en fait, en même temps, tu pourrais être avec quelqu'un de 25 ans, ça pourrait arriver.
Ah oui, non,
aussi.
Mais bah, la preuve, hein, je veux dire, Jean était très jeune, mais enfin, tu sais, tu essaies de te rattacher de façon, de manière très pragmatique, à des raisons de non, il ne faut pas. Et oui, je crois que voilà, peur de nouveau de revivre une situation voilà, où l'autre est malade et où je suis de nouveau en fait, dans cette souffrance. En fait, peur de la souffrance. De perdre de nouveau en fait quelqu'un, parce que je crois que voilà, c'était la souffrance la plus horrible de ma vie, donc oui, peur, cette peur là peur d'oublier aussi Jean, de, tu vois, de le trahir presque, voilà, c'est des sentiments qui se contrôlent pas, quoi, hein, mais
puis c'est différent, enfin je veux dire, c'est vraiment un cas de figure différent d'un divorce ou d'une séparation.
Ah bah ouais.
Parce que dans ces couples là où l'un des deux, ou même parfois les deux, hein, ont perdu quelqu'un. Mais en fait, il y a toujours cette présence, finalement. Il est toujours là. C'est pas comme quand t'as un ex ou une ex qui fait pas partie du tableau. Même si quand t'as des enfants, ils font toujours un peu partie du tableau. Mais c'est pas le même tableau. Tu vois, c'est pas du tableau. C'est pas de l'amour, c'est pas émotionnel. C'est juste presque pratique. Enfin, c'est dans le quotidien, dans la logistique. Là, c'est différent. Ça touche à l'émotion.
Ah oui. Après, la chance que j'ai, c'est voilà, c'est d'être avec quelqu'un qui est extrêmement respectueux de ça, qui est extrêmement bienveillant, avec qui je peux parler en fait de Jean. Et je pense qu'en fait, ça n'aurait pas pu marcher avec quelqu'un qui respectait pas voilà, le fait qu'il y ait eu cette relation et que d'une certaine manière, il restera toujours avec moi.
Elle
en fait,
elle sera toujours là. Ouais.
Elle sera toujours là. Elle voilà, elle est différente. Mais voilà. Il y aura toujours des sentiments et Jean, il sera toujours là. Et puis, ça reste le père de Séraphine. Enfin, voilà, c'est différent d'une séparation. Et j'ai rencontré un des mecs hein, qui m'ont posé la question, hein, tu vois, de me dire « Mais du coup, est-ce que tu es encore amoureuse de Jean ?» Je me suis dit
« Alors déjà, si tu me poses la question, c'est la dernière fois qu'on se voit. »
Ça va être compliqué, là, en fait. Ouais. Je me revois répondre, je sais plus, c'était pas cette remarque-là, c'était une autre question, alors qui était, tu sais, comment dire, maladroite, on va dire. Mais je me revois répondre, écoute mec, enfin, si t'es jaloux d'un mort, ça va être compliqué, quoi.
Mais après, c'est, tu sais, j'essaye de mettre à cette place-là de ce mec, enfin, tu vois. C'est tellement difficile à imaginer ou à appréhender, en fait. Tu sais pas, tant que ça t'est pas arrivé, tu peux pas comprendre, tu peux pas imaginer ce que c'est. Mais après, dans le deuil, de manière générale, il y a quand même beaucoup de maladresse.
Ah bah oui, non mais bien sûr. Non, non, mais
parce que c'est des choses
qui font peur. Tu vois, j'en ris, hein, je veux dire, je leur en ai pas voulu.
Ouais, mais t'en ris parce que t'étais peut-être dans un état où tu pouvais prendre du recul. Mais quand t'es dans le dur, bah, ouais, en fait, il y a des choses que tu peux pas prendre comme ça. Tu
vois. Ah bien sûr, bien sûr.
Donc ce Vincent, parlons de lui, il est papa.
Il est papa de deux filles. Deux filles dont, voilà, dont l'une a quasiment l'âge de ma fille, enfin un an de plus, et l'autre 3 ans de plus, 4 ans de plus, ouais. Et à qui on s'est présenté mutuellement voilà, assez rapidement, puisque ces filles sont dans la même école que ma fille.
Tu as chopé un papa.
J'ai chopé un papa.
Un papa de l'école.
C'est comme ça qu'il s'appelait sur WhatsApp.
Vincent, papa de l'école.
C'est exactement ça.
C'est génial.
Tu comprends les mots-clés
Ouais, mais du coup, tu peux... Enfin, t'es obligé de le croiser.
Alors, on s'est rencontrés sur une appli, hein, qui géolocalise, donc. On habite
C'est pour ça.
À 2 minutes l'un de l'autre. Mais par contre, je me suis dit, oh là là, tu... Si t'échanges avec un mec comme ça, qui est papa dans l'école de ta fille, ça veut dire que s'il ne se passe rien,
bah, si ça marche pas, tu vois la kermesse.
T'es amené à le rencontrer. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, bah, écoute, au pire, je te paierai une bière à la kermesse. Et du coup, quand je racontais, parce que tu sais, quand tu dates à 35 ans, tous les gens autour de toi sont en couple et veulent toujours des détails, des
Pourquoi
trucs.
Pourquoi crois-tu que je suis hyper passionnée par cette conversation? Évidemment.
Et donc, il se passe pareil, rien à chaque fois, dans nos vies. Voilà, je leur disais, bah, un tel, tu vois, pilote d'hélicoptère, un tel, tu te rappelles, c'est le pilote, lui, il fait ci, c'est le cuisinier. Et donc, voilà, du coup, à un moment donné, ils me disaient, et alors, le papa de l'école? Eux-mêmes adoptaient les mots-clés.
Bah oui. Mais tu l'appelles plus papa de l'école?
Non, 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 bon, quand même va. Pas. Très bizarre.
Vous êtes passé un step au-dessus. Non, moi, il y a une question vraiment qui, je pense, qui est intéressante pour tous les cas de figure, hein, de séparation ou quand on perd son conjoint. À quel moment c'est ton bon moment pour présenter cette nouvelle personne à ton enfant? Enfin, selon toi, parce que je ne sais pas s'il y a un bon moment.
Je ne sais pas s'il y a un bon moment. Je l'ai fait quand je me suis sentie prête. Et là, enfin là-dessus, clairement, voilà, lui voulait qu'on le fasse beaucoup plus tôt. Mais je lui ai aussi expliqué à ce moment-là que, inévitablement, le fait que moi, je rentre dans la vie de ses filles et que lui, voilà, par rapport versus lui rentre dans la vie de ma fille, n'allait pas avoir la même incidence et n'aurait pas la même incidence très certainement sur le long terme, et que ça impliquait aussi d'autres choses. Et que je voulais aussi que lui en ait bien conscience, parce qu'en fait j'avais bien conscience du fait que ma fille, n'ayant plus de père physiquement présent avec nous à la maison, elle qui était très interrogative et un peu impatiente à l'idée comme ça que je rencontre un amoureux, hein, c'est une grosse angoisse chez elle que je ne rencontre plus personne.
C'est elle qui t'a installé les applications.
Ah, on a eu des échanges assez drôles, hein, à ce sujet. Oui, que forcément, bah, à un moment donné, voilà, elle allait peut-être l'investir en tant que représentant, voilà, masculin,
en tant que figure paternelle.
Oui, figure paternelle. Et que oui, qu'il fallait qu'il lui, il en ait bien conscience, qu'il soit OK avec ça, que s'il n'était pas OK avec ça, voilà. Juste, on continuerait d'aider, peut-être, tu vois.
Oui, ce qui est différent de ta position à toi par rapport à ces filles, parce qu'elles ont une maman.
Bien sûr. Je suis du plus, à la rigueur, tu vois, pour elles. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut voir, projeter les choses dans une séparation. Mais là, voilà, c'est différent. Et puis, moi, une de mes craintes, mais qui reste une de mes craintes, c'est aussi, finalement, que quelqu'un rentre dans la vie de ma fille en tant que figure paternelle, et qu'on se sépare, en fait. Qu'on se sépare parce qu'elle a déjà perdu son papa, et voilà, le fait de reperdre comme ça des figures paternelles, enfin, c'est, voilà, c'est une des mêmes angoisses, et j'essaie de la mettre un peu à distance actuellement.
Mais en même temps, si Jean n'avait pas été malade, ça aurait pu se produire aussi.
Ah, mais bien sûr, bien sûr. Ah mais complètement. Hein.
Le lot de quand tu fais entrer quelqu'un dans ta vie et que quand tu décides de faire un enfant avec cette personne ou que tu as déjà un enfant et mais c'est compliqué.
Ah oui, oh, oui complètement. Mais dans une séparation, tu vois, t'as la base qui reste.
Ouais.
T'as le parent réel entre guillemets, enfin le parent. Hein,
c'est-à-dire que là, toi, s'il y a une séparation, ben la personne disparaît vraiment de sa vie.
C'est ça. Et ouais, c'est un truc, oui, qui reste encore un peu une angoisse.
T'en as parlé d'abord à Séraphine avant la rencontre?
Oui, oui, oui. Par contre, alors on s'est vu quand même quelques fois les cinq en amis.
Tu crois vraiment encore qu'elle a... Non, mais tu crois vraiment qu'elle t'a cru? Non, mais franchement.
Alors, je pense que Séraphine, ça a été la même chose que moi. C'est-à-dire que entre l'idée de projeter, tu vois, de fantasmer le fait que j'allais avoir un autre amoureux, que voilà, il allait avoir un homme, etc., et la réalité, bah, j'ai un peu déchanté, quoi.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais, ouais, ouais.
Elle te l'a dit ou tu l'as vu par rapport à son comportement?
Ah, sur son comportement. Et puis les premiers temps, quand vraiment je l'ai présenté comme quoi c'était mon amoureux, etc., les premiers temps, elle était très contente. Et après, tu sais, au bout de quelques semaines, elle a fait un peu comme les enfants aînés qui ont un petit qui arrive à la maison de ah, quand est-ce qu'il retourne à l'hôpital. Oui. Ça va durer comme ça toute la vie.
Ça veut dire que c'est plus ma maman que à moi pour moi toute seule.
C'est ça, c'est genre ok c'était bien mais en fait ça va être comme ça tout le temps. Ouais. Donc mais non il s'apprivoise là voilà.
Ouais.
Mais donc oui non je lui ai dit avant comme lui l'aura dit avant et pour moi c'est important qu'on leur dise aussi chacun et qu'elles aient l'espace de part et d'autre, hein, qu'elles aient l'espace aussi de partager leur ressenti par rapport à ça, qu'elle n'allait pas forcément être un ressenti ouhou, pump it up, bah, c'est super.
Non, mais c'est voilà. Des changements aussi pour elle.
Bien sûr. Et puis voilà, au même titre que moi, j'étais la première personne aussi, finalement, voilà, après leur maman, enfin, qu'elle voyait avec leur papa. Mais finalement simple, en fait.
Ouais, ça se passe bien.
Mais oui, finalement simple, ça se passe bien. Voilà, on essaie tous de s'apprivoiser avec les places des uns et des autres, mais globalement, ça se passe très bien. On est déjà partis en vacances ensemble, à cinq. Les filles s'entendent très, très bien et ça, c'est une vraie chance. Puis elles sont petites, en fait. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que, ben, voilà, elles, si on reste ensemble, elles vont grandir ensemble, forme de fratrie aussi recomposée.
C'est chouette. Et comment vas-tu, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu... parce que tu nous as parlé de la thérapie, de tout ça, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour tout ça?
Écoute, aujourd'hui, je vais bien. Je suis heureuse, je suis plus apaisée, néanmoins très fatiguée en cette fin d'année. C'est rigolo parce que vraiment, au moment où on enregistre l'épisode, ça fait 15 jours, 3 semaines où je sens que je tire sur le fil. J'accuse un peu le coup aussi de cette année finalement où j'ai repris à temps plein, où je bosse 40 heures semaine, où je cours partout pour m'occuper de ma fille, où il y a plein de nouveautés, où je suis occupée par un amoureux. Donc ouais, non, là je sens que la fin d'année est compliquée. Et justement, tu vois, l'avantage d'avoir fait une dépression, c'est que tu sens le truc venir et tu dis tu tires un peu sur la corde, il va falloir réfléchir à peut-être... aménager des choses, etc.
Mettre les pions différemment pour...
C'est ça. Ouais. À poser un jour ou deux avant tes congés, par exemple, pour souffler. C'est dur, hein, même en étant passé par là, de quand même s'écouter.
C'est dur, mais je pense que ça t'empêche d'aller au point de non-retour. Au fameux point de non-retour où t'es allé la première fois. Et là, tu vois, je parle d'une expérience personnelle, hein, pour le coup. nous sur du fatigue et épuisement professionnel. Mais pour autant, j'ai pas fait de burn-out avant. J'ai jamais fait ça. Par contre, mon conjoint en a fait un. Donc, je sais ce que c'est. Donc, je connais les signes. Et parce que j'ai vu les signes avant, j'ai vu les signes chez moi. Et donc, je suis pas allée au bout. Et je me suis arrêtée avant. Et je pense que d'être prévenue, parce que moi, je l'ai vu, mais ça peut être aussi être prévenue parce qu'on l'a entendu, bah, ça aide quand même. Je pense que ça permet de... Et pour le peu qu'on ait appris, parce que c'est vrai que parfois, on répète un peu toujours les mêmes erreurs jusqu'à ce qu'on ait appris, mais pour enfin, qu'on ait conscience des choses, ben ça aide d'avoir des clés. Parce qu'aujourd'hui, même toi, tu as vécu une dépression, tu vois les signes aujourd'hui. Mais en fait, si tu as un coup de moins bien, tu sais ce que tu dois faire. Tu le sais. tu vois. Même si tu le fais pas forcément tout de suite, tu le sais. Mais c'est à ton tour maintenant, Charlotte, d'être ta meilleure copine aussi. Parce que, en fait, ce que tu conseillerais à ta meilleure copine, il faut que tu l'appliques à toi aussi, tu vois.
C'est
et c'est apprendre
image,
à devenir
à le...
sa meilleure copine. Mm. Plus que ta vraie meilleure copine, en fait.
Ouais. C'est une belle image, ça. Élise, je vais retenir. Je crois que je vais me l'écrire sur un post-it sur mon ordinateur de travail.
Et puis, tu mets la chanson de Laurie en fond, ta meilleure amie. Tu vas passer un excellent moment. Mais voilà, faites ça. Vous qui nous écoutez, si vous sentez que vous n'allez pas bien et que vous ne voulez pas vous écouter, vous êtes votre meilleure amie. Mettez Laurie, chantez devant le miroir, je serai ta meilleure amie. Et faites ce qu'il faut. Appelez quelqu'un. Sortez-vous de là, parce que non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, de toute façon, il y a personne d'autre qui vont nous sauver. Même si t'as beau être entouré de plein d'amis, plein de familles, plein d'amoureux, c'est pas eux qui vont trouver les solutions à nos places, de toute façon. Donc, quand t'arrives sur un point où c'est plus compliqué, ben, c'est à nous de prendre les choses en main. Quand.
C'est ça. On m'avait dit une petite phrase, pareil, du même genre personne ne t'aimera plus que toi-même. Tu sais, c'est...
Mais non, mais c'est vrai. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait d'antidépresseurs comme béquille. Mm. Ben, c'est qu'à un moment, si on n'est pas capable, pas en capacité d'être sa meilleure amie, bah, c'est l'antidépresseur qui va permettre d'être la béquille pour qu'on puisse devenir notre meilleure amie et prendre soin de nous. Parce qu'en fait, c'est trop important qu'on ait des enfants ou pas, mais quand on a des enfants, c'est ça qui fait que nos enfants vont bien aussi. C'est que d'une première intention, si on n'arrive pas à le faire pour nous, bah, il faut le faire pour eux avant de comprendre que c'est aussi bien de le faire pour nous. Et c'est pas être égoïste, ou si c'est être égoïste, mais c'est pas un truc négatif d'être égoïste. Et je pense que c'est important. C'est pas toujours facile, hein. On dit ça comme si c'était simple de s'arrêter, genre vas-y, je prends 3 mois de vacances, je vais à Bali. Non, non. Ça, si c'était aussi facile, ça se saurait. Mais parfois, en fait, on n'a pas le choix. Et de toute façon, si on s'arrête pas à un moment, c'est nos corps qui vont nous arrêter. Et là, c'est un peu plus difficile de revenir quand même quand c'est comme ça. Ou le Covid.
C'est clair.
C'est selon. Ceci dit, tu sais que moi aussi, j'ai fait le Covid en mars, et moi aussi, il m'a mis dedans le Covid.
C'est lui. Je pense qu'il est juste révélateur, tu sais, de ton état physique. Genre, t'es pas bien, bah
tiens, prends ça.
Ah ouais, ah ouais.
Et ça fait mal. Mais bon, là n'est pas le sujet, nous ne sommes pas sur un podcast Covid. Mais oui, non, c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup en ce moment à tirer un peu sur la corde et les vacances vont être bienvenues. Et même si vous ne pouvez pas partir en vacances, vous pouvez vous arrêter. Ce n'est pas parce qu'on ne part pas qu'on ne doit pas faire de break. L'année dernière, on n'est pas parti, nous, et on a fait un break à la maison pendant 2-3 semaines. Et ben, c'était super.
Et puis pour profiter en fait, des vacances quand tu pars, il faut être en forme en fait. Si t'es complètement...
Et puis parfois, c'est plus épuisant de partir.
Ah ben oui. Avec des enfants en bas âge. Soyons honnêtes.
Faire randonnée tous les jours là. Non, c'est pas des vacances. C'est... Enfin, il y a un moment. En fait, il y a vacances. Il y a vacances où on profite, on s'amuse, mais il y a repos en fait.
Ouais.
C'est pas du tout la même chose. Hein. Nous, cette année, on est parti sur un trip vacances vraiment repos, genre au milieu des champs. Il va y avoir rien. Ça va être bien.
S'obliger en fait à du vrai repos.
Ouais, peut-être qu'il n'y aura même pas de réseau. Mais non, mais en fait, non, mais vraiment, enfin, y a vacances et il y a repos. Et pendant les vacances, souvent les parents reviennent plus fatigués parce que les enfants prennent plein de place. Mais en fait, les vacances, c'est, avant, enfin, c'est bien, mais le repos, c'est mieux.
C'est ça.
Et c'est important. Le sommeil n'est pas surfait.
Ouais.
C'est très, très
et puis bah tu vois je m'oblige à mettre des choses en place et je pense que je vais ça va être une nouvelle étape pour la rentrée m'obliger à mettre plus de choses en place pour me faciliter la vie et pour aussi voilà m'octroyer plus de temps aussi pour moi et pas juste pour ma fille si depuis quand même quelques mois je la mets un week-end de temps en temps chez ses grands-parents mais voilà là, elle va partir 15 jours en juillet chez ses grands-parents. J'ai hâte. Je l'aime, mais j'ai hâte.
Non, mais c'est vrai. Et puis, en fait, c'est des moments où, quand toi, tu penses à ton enfance, en vrai, si tu as eu la chance d'avoir des grands-parents au top et tout, bah, c'est des super souvenirs, en fait.
Bien
c'est
sûr.
Aussi très cool pour eux de créer cette relation-là. Et c'est un peu ce qui est chouette quand les enfants grandissent, c'est qu'ils peuvent créer ces relations-là avec leurs grands-parents. C'est toujours plus compliqué quand ils sont tout petits. Mais après, c'est super bien. Donc, en fait, c'est chouette pour nous. Bon, parfois, c'est dur parce que quand même, ils nous manquent. Parce que tu sais, la maternité, c'est un peu paradoxal.
Bah, évidemment, évidemment.
Genre, tu veux qu'ils s'en aillent, mais à la seconde où ils sont partis, tu veux qu'ils reviennent.
Tu pleures.
Moi, je pleure toujours quand je laisse ma fille. Alors que je suis trop contente, mais je pleure.
Mais oui.
Et tous les jours, je dis à Alexis, ah, j'ai trop hâte de la revoir, j'ai trop hâte de la revoir. Elle me dit, mais arrête, elle vient
Mais pas
partir.
Tout de suite, quand même.
Mais en même temps, je passe de très bons moments quand elle n'est pas là.
Mais oui.
Mais c'est toujours ce paradoxe. Mais en même temps, non, c'est chouette pour tout le monde. Moi, j'ai une dernière question à te poser, Charlotte. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est dans la situation dans laquelle tu étais quand on enregistrait la première fois ?
Ça va aller. Ça va aller. On a... Voilà. On n'y croit pas, mais ça va aller. Et qu'on se découvre aussi des forces en soi qui nous font affronter la vie de manière... plus forte, en fait, tout simplement.
Merci, Charlotte.
Merci à toi, Élise.
Merci de m'avoir accordé ce temps, de m'avoir raconté ton histoire. Mmh. Moi, j'adore, hein, parce que franchement, on a bien ri.
Moi aussi. Je me dis, donc,
c'est
on a encore
chouette.
Bien parlé.
Ah oui, mais ça, tu sais, hein, moi, j'ai arrêté de dire que mon podcast avait une durée. Hein. Enfin, ça ne sert à rien. Puis d'ailleurs, les personnes qui écoutent Prenons un café savent que il n'y a pas de durée, que ça peut durer 45 minutes comme une heure et demie.
Mais ouais.
Et c'est OK, c'est un peu la magie de ce podcast, je pense. Et non, je suis ravie d'avoir pu faire ce « que sont-ils devenus » ou « que sont-elles devenues » enfin, qu'est devenue Charlotte ? Et de voir que tu vas bien, que la vie a de nouveau souri, que tu souris de nouveau aussi. Et non, c'est chouette. Et je pense que s'il y a des personnes vraiment qui sont dans la souffrance, qui viennent de perdre leur amoureux, qui viennent de perdre quelqu'un de très très cher, je pense que ça peut donner de l'espoir. Et peut-être que toi, il y a 2 ans et demi, t'aurais peut-être, je sais pas si t'aurais entendu, t'aurais peut-être écouté, mais t'aurais pas forcément entendu. Mais ça peut être quand même important, je pense, de voir la lumière au bout quand même.
Ouais, je pense que voilà, ça peut faire du bien. Moi, j'ai lu des témoignages qui m'ont fait du bien, de me dire on n'oublie pas, on apprend à vivre avec, avec le deuil, avec l'absence, à reconstruire autrement, à faire le deuil de la famille, voilà qu'on était, et on avance plus forte, ouais. On se découvre plus forte, on avance plus forte, et ça va aller.
Et les noms des applis, c'est quoi déjà ?
Bumble, ça va aller grâce à Bumble.
Pour quand vous êtes prêtes, on y va.
Allez-y.
Racontez-nous.
Venez témoigner ensuite en commentaire, moi je veux des retours.
On veut savoir. Merci mille fois Charlotte, c'était super.
Merci à toi, c'était un très bon moment et je te remercie beaucoup. Et écoute, à dans 2 ans.
À dans 2 ans. Puis moi je fais un coucou à ta maman quand même, parce que je sais qu'elle va écouter et que je suis trop contente.
C'est vrai. Coucou, c'est vrai, Charlotte. Elle sait tout. Je n'ai aucun secret pour elle.
Et voilà. À bientôt.
Merci beaucoup, Élise.
Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café, Frappé, la capsule estivale dans laquelle on retrouve les anciens invités du podcast. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcasts. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcasts sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites. Au choix, 5. Et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 15 juin, Aurélie MK écrivait « Ma dose de décrochage dans mon quotidien de maman de 3 kids. Tellement bienveillant et éclairant. Merci. » Mais c'est moi qui te remercie, Aurélie, pour ta fidélité, pour ce temps que tu prends pour toi et pour ton soutien. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode estival. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.